Chapitre 10. Tandis que cet événement, qui aurait pu être tragique, se passait sur le trottoir de cette paisible rue de la Chaise, Marcelin Bréchel, lui, gagnait l'atelier de la rue Saint-André-des-Arts pour y accomplir la dure mission dont il s'était chargé. « La patronne est sortie pour une livraison, » lui dit une des ouvrières. « Je l'attendrai, » répondit-il. Et il s'assit dans ce décor d'un humble métier, tandis que les couturières reprenaient leur besogne interrompue. Ah, comme il aurait voulu faire vieillir sa Thérèse, la mère de sa fille, dans une autre atmosphère. Pourtant, il aimait qu'elle eût vieilli ainsi, dans le travail et le repentir. Mais comment allait-il lui annoncer la trahison dont leur fille était la victime ? L'aspect seul des choses autour de lui disait la réponse. Avec cette âme courageuse, pas de demi-confidence, une parole franche et directe, et, comme Madame Gauthier rentrait, « J'ai une nouvelle assez grave à vous communiquer, commença-t-il à mes voix, c'est pour cela que je me suis permis de vous attendre. » Comme toujours, un accueil réservé dénonçait chez l'ancienne maîtresse la pénible impression que lui causait la présence de cet homme, l'unique faute de son passé et constamment racheté. L'avenir de sa fille la préoccupait trop pour qu'elle ne devinât point qu'il allait lui parler d'elle. « Voulez-vous venir dans le petit salon ?» dit-elle à Bréchet et à ses employés. « Continuez votre ouvrage, vous savez qu'il est pressé. Moi, je vous rejoins tout de suite. » Une fois seul dans la pauvre piécette attenante qui lui servait de bureau, « Il s'agit de Paul, » interrogea-t-elle, « et de M. Harny, n'est-ce pas ? Elle était si troublée ces jours-ci. Il se passe quelque chose qu'elle n'a pas voulu me dire, à quoi il est mêlé ?»« En effet, » répondit Bréchet, « quelque chose de très grave, d'irréparable même pour elle, et qu'elle n'aura pas pu vous raconter, parce qu'elle ignore le pire. »« D'irréparable ?» répéta la mère, et bouleversé, le souvenir de sa propre défaillance d'autrefois lui arracha ce cri. « Il est son amant ?»« Non, non, » fit Bréchet, « ce serait moins irréparable puisqu'ils sont libres tous les deux. » Et, se reprochant d'éveiller chez elle une comparaison trop douloureuse, « Non, mais j'ai la certitude aujourd'hui que ce garçon est un fourbe. » D'autant plus dangereux qu'il justifie ses pires fourberies sous les prétextes sentimentaux qui lui en dissimulent la hideur. Et il commença de raconter à la mère, qu'il écoutait avec une visible horreur, la comédie dont son enfant, si vrai, si noblement passionné, avait été la dupe. « Alors, demanda-t-elle, ce prétendu refus de son père à leur mariage, à cause de l'absence de dot, c'était un mensonge ? Un absolu mensonge. J'arrivais chez M. Harny père tout à l'heure, je peux le dire, avec l'offre de cette dot. Parmi mes affaires actuelles d'immeuble, je me trouve disposé d'un local admirable pour y installer une clinique. Un médecin m'a suggéré d'en faire un institut de recherche bactériologique. Oh, très modeste. J'en serais le principal actionnaire, il y aurait une place bien rétribuée pour Paul. Je comptais vous en parler et obtenir votre assentiment. Vous avez bien voulu me reconnaître le droit de veiller un peu sur une destinée à laquelle je dois au moins cette réparation. Je lui dois maintenant de la préserver du piège dont elle a failli être la victime. Et vous me devez, vous, Thérèse, il ne l'appelait jamais de ce petit nom, de m'y aider. C'est à vous de dire à Paul la vérité entière. Votre fils est prévenu pour le cas qui ne se produira pas, où Alfred Harny se débattrait contre ses propres aveux, faits à son père devant moi. Ah, voici d'ailleurs Raymond. Et dans quel état ? Une voix résonnait en effet dans l'atelier, celle du frère, encore à peine maître de lui, et qui entrait en essayant de se dominer. « Maman, dit-il. « Monsieur Bréchet est venu certainement apprendre l'infâme comédie que M. Alfred Hardy jouait à Paul. Ce monsieur avait une maîtresse. Il n'avait jamais parlé à son père de ses fiançailles avec une jeune fille si pure, si droite. Il préférait accuser ce père d'un odieux manque de cœur. Il prétendait, oh, je te l'ai raconté moi-même, car il me mentait aussi à moi, son dévoué, que M. Hardy était irréductible sur ce chapitre de la dot. Cette dot que vous, M. Bréchet, notre admirable bienfaiteur, vous vouliez constituer à Paul. Oh, j'ai su cela encore par votre petit-fils. Enfin, tout est bien fini. Je viens d'avoir une scène avec cet abominable félon et je l'ai corrigé de mes mains. Je l'ai rossé. Et il montrait ses mains de fils d'ouvrier, si fortes et tremblantes de colère. Le temps de rentrer à la librairie et d'écrire au patron que je m'en vais de la maison à cause d'une violente discussion avec M. Alfred Hardy, suivie de voix de fête. Si je ne vous avais pas trouvé ici, M. Bréchet, je courais chez vous pour vous avertir et vous prier de ne pas m'en vouloir d'avoir quitté de cette manière une maison où vous m'avez fait entrer. Mais rencontrer cet homme dans les circonstances présentes, je ne pouvais pas le supporter. Vous en vouloir, répondit Bréchet, mais je vous approuve absolument. Je vous trouverai quelque chose, je vous le promets. Seulement pensons d'abord à votre sœur. Vous avez raison, monsieur Bréchet, dit Raymond. Je vais la chercher à l'hôpital et je te l'amène, maman. Madame Gauthier, qui n'avait répondu ni à l'un ni à l'autre des deux hommes, continuait de se taire. Marcelin Bréchet se rappelait les crises de mutisme dont elle était la victime quand une émotion trop forte la saisissait. Raymond partit, les deux anciens amants demeurèrent sans prononcer un seul mot, jusqu'à une minute où la mère de Paul, appelée par une ouvrière, dit simplement « Vous permettez, j'ai une commande pressée, il faut d'abord faire son métier. » Elle est héroïque à sa manière, pensa Bréchet, qui lui-même s'en alla en disant « Voulez-vous m'envoyer Raymond dès qu'il reviendra, que je sache de quelle façon Paul supporte cette épreuve ? Croyez-le, je vous plains de tout mon cœur, mais plaignez-moi un peu aussi, Thérèse. » Mais il ne sait pas tout, se disait la pauvre femme, tandis que son complice d'il y a 20 ans s'en allait de son pas alourdi par l'âge. Il faut pourtant, pensait-elle encore, tout en ayant la force de causer avec sa cliente, que nous parlions, Paul et moi, de l'offre de cette dot. Je ne lui aurais permis en aucun cas de l'accepter. Marcelin ne se doute pas. Elle aussi donnait à Bréchet le petit nom qu'elle soupirait si tendrement autrefois. Non, il ne se doute pas. Mais moi, je l'ai trop souvent senti qu'une défiance secrète grandit en elle. Leur relation ne lui semble pas claire. Elle n'a pas, pour regarder celui qui est pourtant son père, les yeux reconnaissants et simples de Raymond pour le bienfaiteur. Car il n'est que cela, officiellement. Que Paul ne se permette pas de même imaginer la vérité, j'en suis bien sûr. Elle me respecte trop, moi, qui le mérite si peu. Mais on a beau ne pas admettre certaines idées, elles sont là, on les subit. Que va-t-elle penser de cette offre d'une dot ? La cliente était partie depuis longtemps, et Thérèse, retirée dans son bureau, continuait de subir cette attente anxieuse, supplice des situations fausses. Elle se demandait encore, mais de cette la rupture définitive avec cette canaille d'Alfred Hardy, je ne doute pas, elle est si loyale, si vraie. Mais ce sacrifice d'argent que son vrai père méditait pour elle, mais comment le lui expliquer ? Il vaudrait mieux peut-être tout lui avouer. Je ne puis pas. Quand l'écriture nous montre l'adultère puni par la lapidation, elle formule dans un symbole saisissant les innombrables supplices moraux qui châtient ce crime contre la famille. Perdre l'estime de sa fille était cruellement pénible à cette femme honnête de nature, pieuse, qui s'était rachetée dans la mesure du possible et qui se retrouvait encore aujourd'hui prisonnière de son mensonge. Mais elle était mère aussi, et au premier moment, quand Paul à son tour entra dans la petite pièce, cette mère ne vit qu'une chose, l'altération du visage de sa fille à laquelle le frère venait de révéler et la comédie organisée par Alfred Harney et la vengeance brutale qu'il en avait tirée. De son amour trahi et de l'ouvrage subi par le séducteur qu'elle avait tant aimé, qu'elle aimait toujours, elle était certes bien troublée, mais, indice trop évident de la place qu'il tenait depuis des années dans sa pensée, l'énigme des relations de Bréchette avec sa mère, l'offre inattendue de cette dot la tourmentait plus encore. Madame Gauthier y avait vu juste, et quand elle l'a pris dans ses bras en gémissant, « Ma pauvre chérie !»« Oui, répondit Paul, bien pauvre. » Mais Alfred aurait été sincère et son père accepterait la dot que représenterait la fondation des instituts. Moi, je ne l'accepterai pas. J'ai chargé Raymond d'aller prévenir aussitôt M. Bréchet pour qu'il ne pousse pas plus loin ses démarches. Je n'ai aucune qualité pour diriger d'autres infirmières. Je suis une simple laborantine d'hôpital et j'entends la rester. J'ai pris cette situation pour être libre et me suffire. L'hôpital, quand on y est employé, ne se quitte pas plus que le couvent après qu'on a fait ses vœux. Cette déclaration, prononcée avec cette netteté qui n'admet pas la discussion, correspondait trop bien à la douloureuse hypothèse envisagée par la mère coupable. Si imprudent que fût son désir de sonder sa fille, la questionner directement eût été pire. Elle ne résista pas au désir d'en savoir plus long. Mais, dit-elle, en aurais-tu été moins libre en t'associant à d'autres infirmières dans une entreprise fondée pour toi ? J'aurais tout de même dû m'occuper d'autre chose que de mes malades, surveiller mes compagnes, rendre des comptes. Mais généreux comme il l'est, M. Bréchet, en aurait-il jamais demandé ? Car cet institut, ce serait lui qui en ferait les frais. Il y eut un silence. Et, emporté par l'espèce de vertige que certaines enquêtes déchaînent en nous quand elles dérivent de trop lancinantes incertitudes, la mère coupable s'entendit elle-même prononcer des mots plus précis et redoutables par la réponse qu'il risquait de provoquer. « Avoue que tu ne l'as jamais beaucoup aimé. »« Sauf souvenir, dit Paul, est lié pour moi à celui de l'accident qui a coûté la vie à mon père. » Les paupières battaient en prononçant ces deux dernières syllabes qui ramassaient tout le drame de cet entretien. Son regard ne rencontrait plus celui de sa mère, qui insista. « Mais quelqu'un t'a-t-il jamais parlé de lui en mauvais termes ? » interrogea-t-elle. « Personne, répliqua Paul vivement. Je ne l'aurais pas toléré. » Mais c'est un homme d'affaires qui ne tient pas toujours compte quand il forme un projet de la susceptibilité des autres ou de leur caractère. Il aurait dû me parler à moi d'abord de son idée d'institut bactériologique. Et il est allé bien loin en faisant cette démarche auprès de M. Harney père pour l'entretenir de choses qui ne concernaient que moi. Mais, dit la mère, il savait tes fiançailles par ton frère, et il t'a rendu un fier service en t'éclairant sur le caractère de quelqu'un qui te trompait d'une manière indigne. « Ne m'en parle pas, maman, interrompit la jeune fille, je t'en supplie. » Puis, se reprenant, « Si, parle-moi. J'ai adopté comme règle dans ma vie ce qui fait le fondement même de mon métier de laborantine et sa noblesse, de rechercher et d'accepter la vérité. La vérité, c'est qu'Alfred ne m'aimait pas. Ce qu'il aimait en moi, c'était ses propres émotions, car il en avait, mais toute imaginative. Il me jouait une comédie, mais il se la jouait aussi à lui-même. Je ne le voyais pas. Je le vois aujourd'hui, et tout est bien fini entre nous. Comprends, maman, ce dont j'ai soif et faim dans la vie du cœur comme dans la reste, c'est d'une réalité dont je ne doute pas. Elle avait prononcé ces phrases d'une telle accent que la mère se tut. « Ah, mais voici mon frère, » reprit Paul. « J'espère qu'il n'a pas manqué M. Bréchet. »« Non, » dit Raymond, « je l'ai trouvé. Je lui ai expliqué ton refus et il a compris tes raisons. »« Ah, quel homme et qu'il est dévoué. Cette fondation d'un institut médical qu'il préparait pour toi et dont tu ne veux pas, il y renonce. » Il admire ta volonté de demeurer une modeste laborantine, sans autre ambition que de bien réussir tes analyses. Mais il avait mis de côté certains capitaux qui deviennent libres. Moi, j'ai perdu ma place chez Gilles Quint. Alors l'idée lui est venue, là, devant moi, d'employer cet argent à fonder une maison d'édition dont il me fera le directeur. Il en a même trouvé le nom, qui te plaira, maman, car c'est celui d'un arbre d'Auvergne, de ton pays et du sien, au Rouvre. Une expression singulière éclaira le visage de Paul. Sa mère crut y reconnaître une libération. Elle pensa que son ancien amant était tout de même un bien noble cœur. Lui aussi avait donc deviné les soupçons que pouvait éveiller chez l'attentive laborantine la nuance différente de ses rapports avec elle et son frère, qui se ressemblaient si peu animalement. Traiter aussitôt Raymond comme il avait voulu traiter Paul, n'était-ce pas prouver à la jeune fille que tout soupçon d'une paternité clandestine devait être écarté pour ce qui la concernait? « Et tu acceptes ?» demanda la mère à son fils. « Naturellement, » dit le jeune homme, « Guy Quint va être indigné que je me sois permis de me faire justice moi-même, d'autant que je ne peux pas lui expliquer l'infamie que j'ai dû châtier. » Il insista sur le mot « dû » et ajouta en riant, « Du moins, au Rouvre, nous ne lui ferons pas concurrence pour les prochaines œuvres de M. Alfred Harny, ce lâche. » Regardant de nouveau sa fille, Thérèse Gautier put voir que son expression venait encore de changer. Que pensait-elle maintenant? Certaines défiances inconscientes se nourrissent des actes mêmes que font pour les dissiper ceux qui les provoquent. Une minute avait suffi pour qu'un étonnement remplaçât la première sensation qui lui avait donné l'identité d'intérêt et d'affection, attestée pour le geste identique du bienfaiteur de la famille Gautier pour son frère et pour elle. Le contraste était trop fort entre ce brusque revirement et la nuance de l'intérêt que Bréchet leur avait toujours témoigné, si généreux pour l'un et pour l'autre, si tendre pour elle seule. Cette tendresse voilée, discrète, mais trop évidemment partiale, lui avait toujours fait peur, d'autant plus qu'elle constatait une partialité inverse chez sa mère. La joie que celle-ci montrait ingénument de la position soudain offerte à son fils contrastait également avec sa visible gêne quand il s'agissait de la dot offerte à sa fille par ce même Bréchet. Autant de microbes moraux pour lesquels la pauvre laborantine n'avait pas de microscope, et à ce trouble d'idées se joignait une autre cause d'inquiétude. « Oui, ce lâche !» avait répété Raymond. Ce terme de mépris était-il vraiment mérité? Paul avait trop aimé son perfide fiancé pour ne pas souffrir de cette insulte même dans sa cruelle désillusion. Elle aussi tenait du sang auvergnat, ce goût du courage qui caractérise cette race de montagnards. Qu'Alfred Harny n'eût pas engagé une lutte sur le champ et dans la rue même avec son agresseur, elle se l'expliquait, elle voulait se l'expliquer, par la crainte d'un scandale dont le contre-coup l'eût atteint elle-même. Mais la lâcheté, comme avait dit son terrible frère, ce fiancé tant aimé était-il descendu si bas qu'il encaisserait, pour parler l'argot du peuple, les coups de poing reçus? Et s'il se vengeait, d'autre part, Quel danger ferait-il courir à Raymond ?
Chapitre 11. La lecture d'un journal, ouvert le lendemain matin à l'hôpital, devait à la fois calmer ce doute et porter à la pauvre enfant un nouveau coup. L'article était intitulé « Une réunion mouvementée ». Il y était raconté que la veille, les partisans de M. Auguste Cancel, ancien ministre blackboulé aux dernières élections dans son arrondissement, avaient organisé un meeting de protestation. Il s'était rencontré avec les partisans de son successeur. Une discussion publique avait suivi, qui s'était transformée en une violente bagarre. La police avait dû intervenir et procéder à l'arrestation des batailleurs les plus acharnés. Et le journal citait parmi eux un jeune écrivain déjà célèbre, M. Alfred Arny, et le journal ajoutait « Ce dernier paraît avoir reçu des contusions graves. » Si je pouvais aller le soigner, ce mot, prononcé involontairement dans le cœur de la laborantine, attestait la place que son amour trahi occupait encore en elle. Naïvement, elle l'associait à son métier. À peine sortie de l'hôpital, elle se dirigeait vers la rue de Richelieu pour demander des nouvelles à la concierge de la maison où elle imaginait Alfred Arny souffrant. Oh, dit cette dame, notre jeune monsieur n'a rien. Les journaux exagèrent toujours. Il est allé défendre monsieur Cancel, qui est son ami, à cette réunion. Un œil poché, c'est tout. Il a pu partir pour Deauville cet après-midi même. Quel soulagement pour Paul d'apprendre par un authentique témoin que son perfide fiancé n'était pas sérieusement atteint. Il ne s'était jeté dans cette aventure, pensa-t-elle. Que pour se prouver, éprouver à Raymond après l'affront de la rue de la Chaise, qui n'est pas un lâche. Mais n'avait-il pas voulu aussi plaire à Madame Cancel, à cette maîtresse dont elle voyait toujours le regard haineux et passionné, dont elle entendait encore la voix frémissante durant cette rencontre de la rue Masserand ? Elle l'avait vu, lui, celui qu'elle aimait, si faible devant cette violence révélatrice. Ce voyage à Deauville, dont il n'avait jamais été question, dans leurs propres propos, n'avait-il pas pour but de se retrouver avec cette femme, pour le mari de laquelle, une honte de plus, le jeune amant s'était battu ? Le besoin de savoir toute la vérité devait inspirer à l'amoureuse trahie l'action la plus extraordinaire étant donné ses habitudes de scrupuleuse discrétion. Dans certaines crises de souffrance aiguë, comme celle que traversait Paul, l'extraordinaire devient le naturel. Elle entra dans le premier bureau de poste qui se présenta, emprunta l'annuaire du téléphone, chercha le numéro de Madame Cancel et le demanda. 5 minutes plus tard, elle apprenait que sa rivale était à Deauville. On lui donnait même le nom de sa villa. « C'est elle qu'il aime !» se disait-elle, en s'échappant de la cabine d'où elle emportait une confirmation décisive de son malheur. « Je le savais bien, mais qui m'ait encore fait ça, lui à moi, comme c'est dur !»« Au cœur blessé, l'ombre et le silence !» écrivait le tendre et profond Balzac à la première page de son émouvant récit « Le médecin de campagne ». Cette phrase si simple exprime une observation dont certains étalages de chagrin démontrent trop la vérité humaine. Il existe en effet ce qu'on pourrait appeler un charlatanisme des larmes, qui n'exclut pas une part de sincérité, mais une nature vraie ne trouve quelque consolation pour une douleur suprême que dans un reploiement qui répugne même à la pitié. Elle ne veut pas être plainte. C'est ainsi qu'en rentrant des enfants malades, le soir, Paul coupa court à toutes les questions pourtant si craintives de sa mère sur son état moral durant cette fin d'une triste journée. Aux condoléances de son frère, exprimées plus gauchement, mais si pitoyables également, elle se déroba de même. Sa mère appréhendait sa prochaine rencontre avec Marcelin Bréchet. Par une intelligence de la sensibilité de sa fille qui témoignait d'une ressemblance intime, celui-ci la lui épargna, et Paul lui sut un gré particulier de ne pas être venu l'entretenir de cette nouvelle aventure d'Alfred Harney qui devait connaître comme elle. Si elle l'avait rencontré, elle aurait deviné dans son regard une inquiétude à son sujet dont elle ne soupçonnait même pas l'intensité. C'était aussi une raison pour lui de ne pas la voir, par crainte de l'exaltation où il la trouverait et que sa présence redoublerait. Un incident avait eu lieu qu'il racontait à son petit-fils avec une révolte qui prouvait combien ce père d'un grand fonctionnaire demeurait étranger à certains côtés de l'esprit bourgeois. « Imagine-toi, » avait-il dit à Marcel. C'était le lendemain du jour où Paul apprenait le départ de son Alfred pour Deauville. « Imagine-toi que j'ai reçu la visite de Maître Harney. Il m'arrivait avec une lettre adressée par son fils à Mademoiselle Gauthier, infirmière aux enfants malades. Celle-ci l'avait retournée rue de Richelieu sans l'ouvrir. Il l'ouvre, lui, et la phraséologie sentimentale de son fils l'épouvante. Il se dit bien sottement que l'exaltation de ce vilain garçon, il y croyait, était l'œuvre volontaire de notre poule. Il en a conclu un plan prémédité chez elle et qu'elle pouvait, dans son échec, nourrir des projets de vengeance. Mais que venait-il me proposer, sachant combien je m'intéresse à elle, sans deviner pourquoi? De s'associer à moi, à titre d'indemnité, dans la fondation de cet institut d'analyse bactériologique destiné à garantir l'indépendance de Paul. Je lui en avais, quand je présentais l'affaire comme une dot, assuré le succès et la large rétribution du capital engagé. Évidemment, il appréhendait quelques coups de tête de la jeune fille trahie, le revolver, le vitriol, que sais-je. Une indemnité pécuniaire pour une déception de cœur. Que voilà bien l'état d'esprit d'un homme de loi, pour qui tout se solde dans la vie par dommages et intérêts. Tu n'imagines pas sa figure quand je lui ai répondu que Paul n'acceptait pas la petite dot que j'avais rêvé de lui constituer. Je vous affirme, monsieur Harney, ai-je dû lui répéter, que la fortune de monsieur votre fils faisait pour elle le principal obstacle à un mariage entre eux. Et lui de me répéter, mais vous croyez cela, mais est-ce possible? C'est certain, ai-je répondu de nouveau, je vous en donne ma parole d'honneur. Et il m'a quitté sur un geste de stupeur qui m'a fait me demander, malgré moi, ce que Paul était capable de faire dans la crise de désespoir qu'elle traverse. Tu me dis que tu as un ami dans les hôpitaux. Oui, répondit Marcel, Justin Cortet, mais il est interne à l'ANEC. Il doit connaître quelqu'un aux enfants malades. Oui, au certain discoète qui justement travaille avec les laborantines. Mais c'est par lui, reprit le grand-père, qu'il s'agit de savoir comment Paul prend son malheur. Et par Cortet, si elle ne leur paraît pas très étrange, troublée, différente d'elle-même. C'est comme avec sa mère autrefois, moi aussi j'appréhendais un coup de tête. Je l'appréhende avec Paul, une de ses résolutions brusques et irréfléchies, la décharge du chagrin intérieur. Interroge bien ces messieurs en prenant soin de ne pas les mettre sur la voie véritable. Alfred Harney a quand même des côtés qu'il convient de respecter. Tu as su quelle part il a prise à ce meeting des électeurs de Cancel. Il s'est battu très bravement avec les perturbateurs de la réunion. L'homme est un animal bizarre. Trahir sa fiancée pour une drôlesse mariée et risquer de se faire casser la figure pour ce mari que l'on trompe afin de se bien prouver à soi-même que si l'on n'est pas défendu contre le frère de cette fiancée, ce n'est point par lâcheté. Je ne t'ai pas dit qu'il avait sans commentaire envoyé à Raymond un compte-rendu découpé dans un journal
où son courage physique dans cette réunion était mentionné, autant dire à son agresseur de la rue de la Chaise. Si je n'ai pas riposté à vos coups de poing, c'est à cause de votre sœur et pour ne pas la compromettre. C'est vous le lâche. J'ai bien supplié Raymond de ne pas communiquer ce détail à Paul. Mais m'aurait-il obéi? Je l'ai trouvé honteux maintenant de sa propre action. Il admirait tant le lac caché, et l'admiration ressemble à l'amour. Il en reste toujours une cicatrice prête à saigner. C'est bien ce que je crains pour ma chère Paul. L'intuition de Marcelin Bréchet y voyait juste. La pauvre laborantine allait en effet sortir par un coup de tête de la crise angoissante qu'elle subissait, mais ce coup de tête devait lui ressembler et mettre en lumière les héroïques qualités de sa haute nature. Le père avait bien vu cela aussi, qu'elle ne se confierait à personne. Pendant plusieurs jours, aucune des habitudes de la malheureuse ne fut changée, ni à la maison où son silence continuait vis-à-vis de sa mère et de son frère, lequel avait la sagesse d'obéir aux suggestions de Bréchet, ni à l'hôpital où elle pratiqua son service avec la même impeccable régularité. Ses compagnes la regardaient avec une curiosité qui ne la prit jamais en défaut, excitées qu'elles étaient par le souvenir de la scène de la rue Masseron. Elle remarquait bien que Paul n'y passait plus jamais par cette rue, seule observation qu'elles purent transmettre à leur interne, ce discoète, qui la communiqua lui-même à Cortet. Sauf ce besoin d'éviter ce trottoir où sa rivale la surprise au bras de son type, aucun signe qu'elle traverse un drame. D'ailleurs, le type lui-même ne reparaît plus. Y a-t-il eu un drame? Cette petite n'a jamais été à la rigolade, et elle continue ses analyses avec sa tranquillité minutieuse. Te rappelles-tu ce grand laryngologiste qui disait « Moi, j'habite les œsophages ?» Notre laborantine a l'air d'habiter son microscope. Ces microbes la fascinent littéralement. Elle avait sans doute un consolateur de rechange, disait Cortet en rapportant ce propos à Marcel. Ou peut-être ce consolateur l'attend-il à Nevers? Car enfin tu ne m'en parles plus de cette famille de Nevers pour qui tu cherchais des renseignements. As-tu donné ce que tu as recueilli? Je voudrais lire ta lettre pour me rendre compte de la manière dont l'historien de Janus pratique les leçons de son dieu à deux visages. Non, je leur ai simplement écrit que je n'avais rien appris. T'as eu raison, reprit Cortet. D'ailleurs, la petite est plus Janus que toi. Ah, j'oubliais de te dire où je l'ai vue qui entrait l'autre jour comme je gagnais la Hennec par la rue de Babylone. Aux bénédictines de la rue de monsieur, s'il te plaît, et avec une mine dévote. Crois-tu que je l'ai suivie, oh, discrètement? Elle priait dans cette chapelle avec une ferveur. Ah, quel mythomane que ces demoiselles! Et comme mon cher ancien maître Ernest Dupré a inventé un joli mot. Et si elle est sincère, cependant, avait répondu Marcel. Alors, c'est une automythomane? Oh, l'espèce existe. Comment veux-tu que cette petite Gautier croie en Dieu, quand tous les jours elle constate qu'il n'y a d'énergie au monde que physico-chimique? Un miracle qui est raison d'un microbe, cela ne s'est jamais vu. Ce qui se voit tous les jours, c'est que ce microbe sert à créer le dévouement chez l'infirmière et chez le médecin. Et la voilà, cette force spirituelle qui te soutient toi-même, reprit Marcel. « Ça, c'est de la métaphysique, » répondit Cortet. « C'est pas ma partie. Toi-même, l'admets-tu vraiment, ce spirituel dont tu parles ?»« En tout cas, je ne le nie pas, puisque je vois de nobles âmes en vivre. Et le parrain même de ton hôpital, et Pasteur ?» Les deux camarades d'enfance s'étaient séparés sur ce mot, auquel l'interne de l'ANEC n'avait rien objecté. Ce rappel du nom du grand thérapeute qui découvrit l'auscultation, quel argument ne pouvoir le discuter,
non plus que le souvenir du savant qui fut précisément le révélateur du microbe. Cortés cependant était demeuré assez frappé de cette conversation pour qu'il s'empressât de venir annoncer à son ami, l'ayant senti intéressé par cette visite de la laborantine à la chapelle de la rue de Monsieur, un nouveau enseignement de discoète. « Je ne t'ai plus rencontré depuis notre discussion de l'autre jour, » commença-t-il. « Le vieux matérialiste que je suis et que je mourrai ne sera converti ni par la Hennec ni par Pasteur. Mais je t'apporte un nouveau phénomène d'automythomanie, puisque tu continues à t'occuper de cette petite farceuse, qui me semble concurrencer sérieusement, Janus. » « Non, je ne suis guère sorti, » répliqua Marcel, en montrant les papiers épars sur sa table. « Tu vois mes notes. Mon père m'a écrit que mon proviseur me prie de hâter mon retour au lycée. Je rentre à Nevers après-demain. J'ai passé toutes mes heures cette semaine à la bibliothèque. Mais qu'a donc fait Mademoiselle Gauthier, que j'envie, moi, le demi-croyant, car j'ai bien des heures de doute. Et elle a une foi complète. Et aussi complète qu'elle médite de nous quitter. Pour entrer au couvent ? S'écria Marcel. Ben, c'est tout comme, reprit Cortet. Un autre grand automitomane, un médecin, s'il te plaît, qui s'est fait prêtre après s'être conduit en héros pendant la guerre, un disciple du père de Foucault, fonde au Maroc, à Casablanca, une clinique dernier modèle pour laquelle il engage des laborantines. Il est venu demander à Discoët des renseignements sur cette petite Paul Gauthier qui s'est d'elle-même offerte, sachant que ce docteur apôtre recrutait son personnel. Mais c'est impossible, elle a ici une mère veuve, un frère, ses petits malades. Ben, et t'oublies le gigolo qui l'attendait quasiment tous les jours à la sortie. Elle plaque ce monsieur comme le reste, à moins qu'elle ne soit comme la demoiselle dont parle ton Virgile. Ton vieux copain n'a pas oublié les vers, et fugit ad salices. Me rappelle pas trop la fin, et cupit ante uideri. Est-ce bien cela ? Et se cupit, répliqua le professeur. Le truc est simple, mais infaillible. Je connais pas le personnage, mais je parierais qu'avant 15 jours, il prendra l'avion pour le Maroc, où il trouvera notre laborantine en train de lever un bico. Mais si elle est sincère, cependant, te répéterai-je encore, dit Marcel, si elle va là-bas pour se racheter, puisque tu crois qu'elle était la maîtresse de cet homme. Se racheter ? Fit Cortés en haussant les épaules. Oui, ou elle-même, ou quelqu'un d'autre. Et dire qu'au XXe siècle, il se rencontre encore des gens intelligents pour donner dans des bobards pareils. Allez, moi je retourne à la Hennec, faire ma contre-visite, et en particulier voir un opéré dont la température m'inquiète. Ça, c'est du vrai. Et puis si je te revois pas avant ton départ, je te tiendrai au courant des faits et gestes de notre gourgandine, au cas où elle donnerait suite à son projet marocain. Bon retour, ami, et pense plutôt à Janus et à ses dévots. Cet automitomane-là était plus raisonnable que ceux d'aujourd'hui. Il voyait des faits, ainsi les deux visages. C'était de l'observation, au lieu que... Et lui-même, il croit qu'il les voit, les faits, se disait Marcel, tandis que le ricaneur descendait en hâte l'escalier. Le drame qui se joue devant nous, il ne s'en doute même pas. Il est vrai que ces messieurs n'ont pas encore inventé de thermomètre pour prendre la température morale. Grand-père, lui, voit plus juste dès qu'il s'agit de Paul. Ce coup de tête qu'il appréhende, si c'était celui-là pourtant, il faut que je l'avertisse tout de suite. D'après Discoët, il ne s'agirait que d'un projet. Sans doute est-il encore temps d'y couper court, quoique cet exil représente peut-être bien la sagesse. Mais allons. Il ne se doutait pas, tandis qu'il s'acheminait de nouveau vers le boulevard Suchet, qu'un entretien avait lieu dans le cabinet de l'homme d'affaires à ce même moment, qui marquait la dernière scène de ce drame, inconnu de tous, dont il était, lui, depuis ces derniers jours, le témoin anxieux. À la minute où son camarade lui racontait, avec son ironie de carabin, la résolution de la laborantine, celle-ci se présentait elle-même chez son vrai père. Comme le secrétaire répondait que M. Marcelin Bréchet ne recevait pas, elle lui remettait une lettre en disant « Il est là, je l'ai vu entrer. Qu'il prenne connaissance de ce mot, il me recevra. » « Faites entrer, » dit Bréchet à son secrétaire, après avoir lu ce billet signé simplement « Paul ». Qu'elle n'eût pas employé le nom de Gautier, cette abstention indiquait trop que l'enfant de la faute n'était pas sans soupçon sur le secret de sa naissance. Cette idée épouvantait à la fois et attendrissait le vieil homme qui se demandait tout bas, le cœur battant, « Que vient-elle me dire ?» La jeune fille entrait, muette d'abord et, comme à son habitude, très maîtresse d'elle-même. La physionomie réfléchie de son beau visage était cependant contractée étrangement avec un pli durci au coin de sa bouche et dans ses prunelles la fixité d'une résolution grave. « Monsieur Bréchet, commença-t-elle, vous avez été si bon pour moi ces temps-ci. J'ai voulu que vous fussiez le premier à savoir la décision que j'ai prise et sur laquelle, je vous en préviens tout de suite, je n'admettrai pas la discussion. À la suite des circonstances que vous connaissez, je vais quitter Paris définitivement. Vous voulez changer de profession ? » demanda-t-il. « J'ai entendu dire que vous y réussissiez si bien, que vous y étiez si utile. Vous-même répétiez que vous considériez comme une religieuse laïque et qu'une religieuse n'abandonne pas son ordre. « Ah, mais aussi ne vais-je pas changer d'existence ?» protesta-t-elle. « Je vais continuer mon métier de laborantine. Je l'aime trop, ce métier, pour y renoncer. Je n'en connais pas de plus beau. Il satisfait en moi un besoin de charité que j'ai toujours eu et de vérité. Je n'ai pas la prétention d'être une savante, mais quand, pour devenir infirmière, j'ai commencé les études de laboratoire, j'ai senti que, dans un tout humble domaine, je pouvais participer à cette œuvre scientifique qui fait la grandeur de notre époque. La science s'associe pour moi, par le dévouement, à mes croyances chrétiennes. Être utile aux autres et dans le réel, vivre pour le réel, un réel bienfaisant, c'est devenu la règle, j'ose dire la joie de ma vie, quoique le réel soit parfois bien dur à rencontrer. » Elle parlait avec l'accent d'une conviction intime, et sans que Bréchet pût bien comprendre pourquoi elle lui faisait à lui cette profession de foi. Quel trouble révélait ce choix, comme confident d'un homme avec qui elle se sentait liée par un rapport dont elle ne savait pas la vérité profonde. C'était une fille qui se confessait à son père, sans pouvoir, sans vouloir même le reconnaître, mais l'instinct était le plus fort. « Oui, insista-t-elle, je vais partir. J'ai demandé et j'ai pu obtenir un emploi comme infirmière au Maroc, à Casablanca. Un médecin catholique qui fonde là-bas une clinique cherche des laborantines. Je l'ai su, je me suis présenté. » Il a tout arrangé avec l'assistance publique, il m'accepte. « Quand partez-vous ? » demanda Bréchet. « Cette semaine. » « Et qu'a dit votre mère ?» Et il ajouta par prudence. « Et qu'a dit votre frère ?» « Je ne les ai pas encore avertis, mais ce n'est pas pour vous prier de les prévenir que j'ai tenu à vous voir. » Et avec un étouffement dans la voix, c'est pour vous dire merci et adieu.
Il l'attira contre lui sans répondre. Il appuya contre ce visage qui se penchait un baiser tremblant. Ils se séparèrent si émus qu'il dut s'asseoir. Elle marchait vers la porte, la tête retournée vers lui, avec une expression dont il devait dire à son petit-fils quand celui-ci, un quart d'heure plus tard, entra dans la même pièce en lui racontant cette scène, toujours écroulé sur le même fauteuil. Ses yeux m'ont appelé son père, à défaut de sa voix. Je ne méritais pas davantage. Chapitre 12. Est-ce que vous m'autorisez à rapporter tout cela à mon père ? Demandait Marcel le surlendemain sur le quai de la gare de Lyon, en attendant le départ du train qui le ramenait enfin à Nevers. Tu en jugeras toi-même, répondait Marcelin Bréchet. Je tiens à reprendre avec ta mère et lui des relations normales à cause de toi, et d'abord à leur rendre visite à Montigny. C'est cette demande que tu lui feras d'abord de ma part. Je ne sais même pas, je te le répète, ce qu'il te répondra. Je ne le connais pas, et lui ne me connaît pas non plus. Le vrai rôle du petit-fils, dit Marcel, consiste précisément à réconcilier ses parents et ses grands-parents. Bref, faire la famille, une noble tâche. Eh bien, essaye, et surtout, ne te sépare plus jamais de moi. Vois-tu, Marcel, je n'ai aujourd'hui que toi au monde. Paul va partir. Sa mère est plus sauvage, plus fermée que jamais. Son fils Raymond est tellement heureux de sa maison d'édition qu'il ne pense même pas à m'en être reconnaissant. Il en oublie jusqu'à sa sœur. Si tu racontes cet épisode de ma vie à ton père, peut-être aura-t-il pitié de moi. Tu m'as prié de te garder ton argent pour le Rouvre. S'il te questionne à ce sujet, oh, la banque d'Avalon a dû le prévenir du déplacement de tes fonds. Réponds-lui la vérité, que je n'ai pas essayé de t'entraîner dans une nouvelle affaire. Tes fonds restent libres. Ta thèse sur Janus n'en sera pas moins bien imprimée par Raymond. Eh bien, aussitôt que vous aurez causé, Antoine et toi, une dépêche et j'accours à Nevers, embrasser mon consolateur. Cette dépêche, le consolateur, pour qui ce séjour à Paris avait été un tel événement, eut lui-même la consolation de l'expédier à son douloureux grand-père, quelques heures après l'avoir quitté sur ce quai de gare. Il lui donnait rendez-vous à Nevers le samedi prochain pour aller ensemble passer le dimanche à Montigny. Comme on pense, Antoine Bréchet n'avait pas voulu attendre plus longtemps pour savoir le résultat de la mission dont il avait chargé son fils. Les billets que lui écrivait le jeune homme, destinés à être lus aussi par la mère, ne lui donnaient d'autres détails que des renseignements de santé ou de travail. Il n'avait pas appris sans anxiété le déplacement de fonds que le banquier d'Avalon lui avait en effet communiqué. « Pourvu que mon père, s'était-il dit, ne l'ait pas entraîné lui aussi dans une de ces spéculations fantastiques comme il continue d'en faire aujourd'hui. Envoyer Marcel à Paris pour cette enquête, quelle imprudence! Mais il était question d'une dette d'honneur. C'est pour moi un point névralgique depuis si longtemps et la terreur d'un accident pareil a tout emporté. » Il était donc là, lui aussi, à l'arrivée du train de Paris, et tout de suite il entraînait son fils à son hôtel, l'interrogeant dès qu'ils étaient montés en voiture. Le premier soin de Marcel fut d'exposer avec une certitude communicative l'inanité des accusations portées par des gens mal renseignés sur les affaires de Marcelin. Mais cette dette d'honneur dont parlait sa lettre, on n'emploie pas au hasard des mots pareils. Dis-moi la vérité. Tu lui as donné, toi, l'argent qu'il me demandait? C'est pour cela que tu as déplacé tes fonds? Non, papa. D'heureux incidents survenus dans ces locations lui ont permis de régler, avant mon arrivée à Paris, et sans avoir besoin de notre secours, la difficulté qui le tourmentait. Elle intéressait en effet son honneur. Mais mon argent à moi est toujours libre. Je le placerai, si vous n'y vous y opposez pas, dans une maison d'édition que grand-père va subventionner. Il faut que vous sachiez tout, et vous ne pourrez pas me plaindre de ne pas le recevoir à Montigny, car c'est le signe de réconciliation que je viens vous demander de sa part et de la mienne. Oh, j'ai été trop ému par lui. J'ai besoin de ne plus en être séparé. Vous allez comprendre pourquoi. » Et le jeune homme commença de répéter à son père la confession qu'il avait, lui, touché si profondément. Il l'initia, avec des larmes, à la tragédie morale dont il restait le témoin bouleversé. Il allait une fois de plus constater combien Marcelin Bréchet avait raison de dire « Je ne connais pas mon fils » et quel divorce irrémédiable certaines oppositions de métier peuvent créer entre des hommes liés pourtant par le sang. Pensant la vie trop différemment, ils ne sauraient se comprendre. Le fonctionnaire irréprochable et strict ne pouvait pas plus s'associer à l'existence sentimentale de son père qu'aux aventureuses audaces de son esprit d'entreprise. Voilà donc l'explication des mystères que j'ai toujours soupçonnés dans son existence, dit-il. Et c'est à toi qu'il avoue cela. Toi, au respect de qui son âge lui fait pourtant un devoir de tenir. Il ne craint pas, sous le prétexte du plus faux des devoirs, de t'associer à une de ses nouvelles folies, car enfin cette maison d'édition où il t'invite à placer ton argent, oh, tu décideras toi-même. Elle ne peut pas réussir, et ce fils de sa maîtresse, qui n'est pas le sien, que lui doit-il? Rien. Précisément parce que je suis un dévot du foyer, je n'admets pas les faux devoirs de famille. La famille, c'est d'abord le mariage, hors du mariage. Tout est désordre, scandale, hypocrisie, misère. » Il s'arrêta, consterné par la détresse dont il voyait Marcel possédé. Puis, lui prenant la main, « Ne me crois pas dur, mon enfant. Moi aussi, j'ai pitié de mon père, tout en le condamnant. Je vais te le prouver. Cette réconciliation que tu désires, je la désire aussi depuis des années. Qu'il vienne à Montigny quand il voudra. Il y sera reçu par ta mère et par moi, comme il a le droit de l'être, avec respect et affection. Permets-moi seulement d'y mettre une condition. Oh, elle dépend de toi, » ajouta-t-il sur un geste de son fils. « Tu vas me donner ta parole que jamais tu ne briseras ta carrière d'universitaire. » « Je vous en donne ma parole, papa, et merci. » Comme si cette conversation m'ait été entendue par le collègue qui discutait avec Marcel la veille de son départ, c'est Émile Chardon, le professeur à la veille de se faire journaliste. Ce fut à cet ennemi de l'université que Marcel se heurta sur le seuil du lycée au moment de reprendre sa classe. « Oh, te voilà revenu à l'affreuse boîte !» lui dit Chardon. « C'est dur, n'est-ce pas, de continuer ce triste métier. T'es-tu amusé, du moins, à Paris ?»« Oui, j'ai pris des notes pour ma thèse, et toi ?»« Moi, oh, je préparais deux ou trois articles que je signerai, justement à cause de toi, du pseudonyme de Janus. » Mais je ne garderai pas longtemps mon double visage. En attendant, allez, entrons décrasser un peu ces cancres. » Que de contradictions, pensait Marcel en s'asseyant dans sa chaire 5 minutes plus tard et après avoir dicté le texte d'une version latine tirée de Sénèque. Il regardait les têtes de ses 25 élèves, penchés sur leur pupitre, et le cinéma de sentiments divers auquel il avait participé se déroulant devant son esprit. « Où est la vérité ?» se demandait-il, et il se répondait. « Dans l'acceptation du sort et la bienfaisance. » L'image de Paul lui revenait comme un exemple à toujours imiter. Il la voyait telle qu'il l'avait vue, penchée sur un enfant malade, allant chercher au fond de sa bouche, sur les amygdales, au moyen d'une tige métallique recouverte de coton, une parcelle de mucosité dont elle ensemençait des tubes de bouillante culture, qu'elle enfermait soigneusement dans une étuve pour que les microbes se développent et qu'elle puisse ensuite les identifier. Elle apporterait le résultat de cette culture au médecin et l'enfant serait sauvé. Qu'aurait-elle fait d'autre que d'exercer consciencieusement son métier? Qu'avait fait d'autre son propre père en maintenant l'ordre dans un coin du service du trésor public, sinon d'exercer son métier, lui aussi, avec conscience? Que feraient d'autres toute leur vie, discoète et cortée? Que faisait d'autre Madame Gauthier dans son humble besogne réparatrice, comme Raymond se préparait à remplir de son mieux son métier d'éditeur, dévoué au service des lettres, et Chardon son métier de journaliste, convaincu et honnête comme il l'était? Bienfaisance ou réparation, le métier est toujours le seul moyen d'être utile aux autres, après la faute. Son grand-père, lui, en était un autre exemple. N'avait-il pas toujours travaillé de son mieux dans les divers métiers qu'il avait tour à tour pratiqués? Et il avait pu ainsi, non pas effacer, mais corriger une faute bien grave. De toutes ces figures qui surgissaient ainsi dans sa mémoire, Marcel en condamnait une seule, celle d'Alfred Arny, qui semblait ne vivre que pour lui-même, pour sentir, fût-ce aux dépens des autres. Et tout en regardant travailler à leur composition les adolescents qui lui étaient confiés, une phrase de Bourdaloue lui revenait, qui résume les règles les plus différentes du devoir social dans un seul précepte: vivre selon Dieu, dans son état. Chantilly, août-septembre 1933.